Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Aujourd'hui, je dois vous faire une confidence, une confession plutôt, je vous ai menti. Depuis le début de la série de Mathieu Palin que nous avons intitulée « La photo de classe ». C'est bien l'histoire d'une classe de CM2 en septembre 98 à Ris-Orangis dans l'Essonne. L'école s'appelle bien Michel Ordener et c'est à l'époque la classe de Madame Cascaret. Mathieu Palin, notre reporter, était dans cette classe et a retrouvé les uns après les autres ses camarades. Il en a retrouvé pour l'instant une douzaine qui racontent une époque, font aussi une petite sociologie des trentenaires de la classe moyenne, issus de banlieue. Bref, on était assez contents de ces retrouvailles pour tout dire. Et puis Mathieu s'est mis à les décrire, à dire comment ils sont aujourd'hui et à quoi ils ressemblaient en CM2. J'ai expliqué où ils étaient situés sur la photo pour que vous puissiez vous repérer en écoutant. Et c'est là que les ennuis ont commencé, les mails sont arrivés sur ma boîte, les commentaires sur les réseaux sociaux, ça sentait le roussi, ça ne collait pas. Les inspecteurs Colombo que vous êtes ont fait leur boulot, il y avait bien quelque chose qui clochait. Le gars en pull vert n'était pas au troisième rang, il n'y a pas du tout cette fille que vous décrivez sur la photo, on ne comprend pas, c'est bizarre, c'est louche. Je dois donc vous l'avouer aujourd'hui, malgré le titre formidable et incroyablement accrocheur et original de cette série, il y a eu cette année deux photos de classe. Car cette année-là, encore une fois, Madame Cascaret a pratiquement 40 élèves dans la même classe. Alors, comme tous ne tiennent pas dans le cadre, le photographe a fait deux photos de classe. On a donc simplifié plutôt que menti. Et aujourd'hui, sur le site des Pieds sur Terre, tandis que vous écouterez ce quatrième épisode de la photo de classe, vous pourrez enfin aller consulter les deux photos, l'une à côté de l'autre, les vraies. La suite, que sont-ils devenus 18 ans plus tard? C'est la suite de ce récit de Mathieu Palin qui aujourd'hui a retrouvé deux camarades de CM2.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Quand on est gamin, on pense à ses potes, on pense à autre chose. L'enfance, c'est une période magnifique, il faut dire ce qui est. Et c'est en grandissant, quand on voit les problèmes de la vie, quand on voit comment c'est dur, là on en prend réellement conscience. C'est peut-être aussi parce qu'on est à un âge où on a beaucoup, beaucoup mûri tous. Voilà, on n'est plus les petits gamins du lycée ou de la primaire. On n'est plus les rois de la cour. Là on est dans un monde qui nous dépasse complètement.
Quand t'es petit, t'as pas tous les codes pour vivre en société. J'en prends conscience par hasard, en entendant un gosse dire tout fort à sa mère. Mais pourquoi le monsieur il a plus de cheveux? Et pourquoi elle est grosse comme ça, la dame? Je sais pas si la vérité sort de la bouche des enfants, mais la cruauté, ouais, aucun doute. Que ce soit en primaire, au collège ou au lycée, j'ai jamais été victime de l'effet de groupe, du harcèlement. Cet enfer qui te met la boule au ventre dès le dimanche soir quand tu sais que tu repars pour 5 jours de galère. J'avais la chance d'être ni trop petit, ni trop grand, ni trop mec, ni trop gros, pas malade, pas assez bizarre. J'ai traversé toutes ces années sans me poser de questions. Jusqu'ici, je vous ai décrit mon CM2 comme une classe hyper soudée, et je me rends compte que c'était pas vrai. Il y avait des groupes, les PS, les joueurs de foot, ceux qui naviguaient entre deux eaux et ceux qui, pour X raisons, ont passé l'année à se chercher une place.
Alors moi, j'arrivais à cette période-là de Villavé, puis avant, j'étais à Tismons. Après Ris-Orangis, je suis retourné à Tismons faire ma sixième. Puis ensuite, j'ai voulu aller vivre avec mon père une année, donc j'étais à Aubervilliers, un autre contraste aussi. Et ensuite, je me suis retrouvé 2 ans à Monge.
Alexandre, il était costaud, c'était pas une victime. Mais il a passé son temps à déménager. Chaque année, une nouvelle école. Oublier les anciens potes, s'en faire des nouveaux, tout reconstruire de zéro. Ça faisait 6 mois à peine qu'il était parmi nous quand on a pris cette photo. On le remarque bien, debout au deuxième rang. C'est le seul qui a eu l'idée de mettre un pull jaune. Les divorces, je savais que ça existait, mais j'en parlais pas. Trop peur que ça tombe sur mes parents. Alex, lui, il avait une double vie. Un père blindé et une mère en galère.
Ma mère, ça a été un peu compliqué. Voilà, avec deux enfants, en étant seul, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Point de vue horaire, elle avait beaucoup de contraintes et c'est ce qui faisait peur à beaucoup d'employeurs. Et même aujourd'hui encore, pour les femmes célibataires avec enfants, c'est un parcours du combattant. Et je ne sais pas si j'aurais réussi à sa place à élever deux garçons et à faire en sorte qu'ils s'en sortent.
Il aurait bien aimé être pilote de ligne, mais il s'est laissé porter sans trop savoir où il allait. Et puis un jour, il a décidé de changer.
Un moment, on remet tous sa vie en question. Moi, je l'ai fait vers 27-28 ans, où je me suis dit, j'approche de la trentaine et j'ai fait tout simplement le bilan de ma vie. J'ai tout remis en question, de ma vie privée à ma vie professionnelle, et je voulais du changement. Et puis j'ai tenté. Donc, voilà. On peut dire que c'est la chance, le hasard, le destin. Ça, c'est une question que je me pose pas non plus. Moi, je tente ma chance. Et je l'ai tenté, ça a marché.
Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je suis commercial dans un domaine très particulier, les pompes funèbres, actuellement.
C'est vrai ?
Voilà.
Du coup, ça marche comment ?
Comment ça ?
Qu'est-ce que tu fais concrètement ?
Alors moi, je suis en agence et je reçois les familles endeuillées pour leur proposer les prestations les plus adaptées à leurs besoins, tout simplement. Et souvent, je me débrouille pour accompagner mes familles le jour des obsèques. Donc, je fais maître de cérémonie. Donc, c'est moi qui anime la cérémonie, c'est moi qui donne du sens à la cérémonie et qui guide les personnes aux différentes étapes de l'enterrement. Donc, on se retrouve des fois dans des situations un peu compliquées. On a des personnes en pleurs dans notre bureau et puis... on est dans un pays où la mort est un sujet tabou, comme l'argent. Mais voilà, il y a quand même des situations assez drôles. Je me retrouve au crématorium. Et dans les volontés du défunt, il voulait partir sur Johnny Hallyday, allumer le feu.
Je rigole.
Non, je ne rigole pas. Et ça commence à devenir de plus en plus commun.
Sérieux ?
Il y a beaucoup de mes collègues... maître de cérémonie, qui ont eu ce cas de figure-là au crématorium, allumer le feu.
Et dans ce cas-là, tu arrives à pas rigoler ?
On se mord les joues.
Et comment est-ce qu'on devient commercial dans les pompes funèbres ?
Écoute, j'étais dans le transport, j'ai voulu changer tout simplement. Voilà, rester commercial, mais changer de domaine. Alors, on a toujours plusieurs possibilités. J'ai eu des propositions dans l'assurance, dans l'immobilier, mais moi j'en avais marre de travailler pour des sociétés, les enrichir et de me dire que au final, moi, qu'est-ce que j'en ressors de tout ça ? Rien. J'ai enrichi des actionnaires, j'ai enrichi des puissants. Ma mère était, quand elle a trouvé sa stabilité, elle a bossé dans les pompes funèbres et elle m'a toujours parlé comme quoi elle avait besoin d'une utilité dans sa vie. J'ai tenté, sur un coup de poker, de donner mon CV une lettre de motivation et j'ai été retenu et j'ai commencé. C'est très enrichissant. On voit toutes les familles, tous les cas de figure, des gens aisés aux gens qui n'ont vraiment aucun moyen. Donc, humainement, ça m'a fait beaucoup grandir. J'ai commencé à lire un peu de psychologie, un peu de philosophie pour trouver certaines réponses à des questions que je me posais sur le sens de la vie. Voilà. Pourquoi on en arrive à des telles situations comme le suicide, comment réagir face à certaines familles qui sont plus dans la colère, plus dans la tristesse, voire certaines dans le déni aussi. Au départ, j'avais beaucoup d'appréhension. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte tout simplement que c'est passionnant. Que c'est passionnant. Et c'est gratifiant. J'ai cette reconnaissance que j'avais pas avant dans mes autres métiers dans le commerce. C'est vraiment une mission de service public, quoi. Donc c'est ça qui m'a plu.
Du coup, tu te vois bien continuer ?
Bien sûr, je me vois bien continuer dans cette carrière, mais on ne sait jamais où la vie nous mène. Et j'évite de faire des projections trop longtemps et trop à long terme. Et Nous, quand on est dans ce domaine-là, on voit la vie autrement, on profite autrement. C'est la plus grande énigme de l'humanité, hein, c'est la mort. Qu'est-ce qui se passe après et tout ça? Alors, la vie, on en profite, je dirais pas plus, mais on profite réellement des bons moments quand il y en a. Voilà, aujourd'hui, une projection à long terme, pour moi, c'est 5 ans. Si dans 5 ans, j'y suis encore, bah, tant mieux. Mais si la vie fait que mon chemin dévie, bah, c'est la vie, hein, tout simplement.
Julie, comment vous dire ? Vous voyez Fifi Brindacier ? Une gamine rousse branchée sur pile ? Ben voilà. Julie en primaire, c'était ça. Elle adorait les animaux, elle avait une grande gueule, des taches de rousseur sur le nez, et une silhouette un peu rondelette qui en faisait une fille plus costaude que les autres. Pour autant, j'ai jamais entendu un seul gosse la traiter de grosse. Personne n'aurait osé.
Ouais, super.
Ça fait trop bizarre de
voir, hein. Ah, c'est un vrai loup, hein.
Ah bah.
C'est impressionnant, comment il s'appelle ?
Aiko. Ah, il va falloir une bonne demi-journée pour qu'il se passe à toi.
Elle aussi, après la primaire, je l'ai perdue de vue. Et puis un jour, je devais avoir 18 ans, je crois, ou pas loin. Une fille sublime est passée à côté de moi dans la rue, à Évry, en me souriant comme si on se connaissait. La fille rousse était déjà loin quand j'ai compris que c'était elle. C'était Julie. Je l'ai pas reconnue. Alors comme pour les autres, je l'ai appelée. Et c'est bizarre parce qu'on est resté 2 heures au téléphone. À rire comme si on s'était jamais quitté.
Là, le train, il est rempli de touristes. Hein. C'est...
Elle vit à la montagne, dans un petit village près de l'Alpe d'Huez.
Derrière, il y a un peu de foin, tout ça, mais ta valise,
avec son fils, ses chiens, ses poules, ses cochons, ses oies, ses 22 chevaux.
Ah, il écoute bien.
Et son loup.
Ouais, bah, il a 8 ans. Parce que je peux dire que les premières années, c'était pas comme ça.
Maintenant, dès que je roule dans une petite voiture, j'ai l'impression d'être dans un kart.
J'avoue que celle-là, elle est impressionnante.
Ouais, c'est cool.
C'est une taille luxe là.
Putain, ça c'était trop cool.
Comment t'as acheté ça? Comment t'as eu l'idée déjà d'acheter un truc pareil?
Parce qu'avant j'avais un Scénic. En fait, j'avais une petite Toyota Ego rouge. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit putain merde, je rentre pas. La poussette, le chien et le petit quoi. Ou mon mec.
Il y a un truc qui rentre pas.
Donc ma tante m'a acheté un Scénic. Et en fait, quand j'ai eu mes chevaux, bah, tu sais, des fois j'ai des petites bottes de foin de 15 kilos à porter. Putain, je l'ai foutu sur le toit parce que dans le coffre ça me foutait trop loin. Donc je ressemblais à une vraie manouche quoi. Puis moi, les prêts pour aller chez moi, pour tirer une cuve à eau, une tonne à eau. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, seule voiture qui peut me permettre de mettre mes chiens, tirer les chevaux, mettre des seaux d'eau, des machins, des trucs, bah, c'est un pick-up quoi. Mais puis du coup, il s'est avéré que mon père a vendu la maison à Ris. Parce que mes parents se sont séparés. Et du coup, il m'a donné une partie de l'argent, ma soeur en a une partie aussi. Et vu que je montais ma boîte, ma soeur m'a prêté sa partie. Et du coup, j'ai acheté ça, une remorque pour les chevaux, un chalet.
Ah, trop bien.
Donc ça a été le gros coup de pouce qui m'a bien aidé. Quoi.
Tu m'étonnes.
Et au final, j'ai investi 90 000 euros.
Ah ouais, quand même.
Ouais, 80 000. Ouais, donc ça se voit, c'est drôle parce que quand je vois cette somme, je me dis c'est pas possible. Et ça se voit pas trop parce que pour le moment tout est en construction, donc c'est un peu. Mais bon, des terrains, c'est vrai que ça s'achète, tu vois. Mais tu verras. J'espère qu'il y aura un beau temps.
Je crois qu'il fait beau demain.
C'est vrai ?
Ouais, je vais regarder.
Ça sera chouette.
France Culture, les pieds sur terre.
Ah, il est bon.
Manga, il est gentil, lui.
C'est la première fois que je vois un cochon avec des poils comme ça.
C'est ce qu'on appelle des cochemoutes.
J'ai pris une vidéo de ce là.
En fait, c'est des cochons haineux et c'est des cochons qui font la meilleure charcute, en fait.
Donc t'as des poules, t'as des cochons.
Lama, chèvre.
T'as des lamas, des chèvres, des chevaux.
Moi c'est plus la partie chevaux. Le reste c'est à manger quoi.
Enfin bref. Du coup, ouais, ça fait la vraie vie à la ferme la journée. Et après, quand on est en station, bah, c'est tout le bling-bling.
Ouais.
Mais j'aime bien les deux, tu vois.
Ça doit tellement te changer de riz.
Ouais, ça c'est sûr. Tout ce qui était collège, lycée, tout s'est enchaîné quand même assez vite. Donc au lycée, où moi j'avais toujours voulu être vétérinaire et en fait... Bah, je suis tombée des nues parce que mon niveau en maths ne me permettait absolument pas, quoi. Et alors là, je me suis lancée dans tout ce qui était éco, sciences politiques. Je me suis dit, allez, je veux être femme d'affaires. Je veux être femme d'affaires. Donc maintenant, je m'en fiche de tout. Je fonce, je veux me faire le maximum d'argent, etc. Donc du coup, après le lycée, donc j'ai eu mon bac éco avec mention. Bien. Ouais, c'était mention bien, je peux être très bien. Mais, et du coup, je suis rentrée en IUT, en GEA à Fontainebleau. Et en GEA à Fontainebleau, en fait, tu pouvais faire un double cursus qui te permettait de passer un certificat des affaires financières internationales. Donc moi, je me suis dit, allez, top, comme ça je voyagerai, je me ferai de la thune. Et en fait, au terme de cette école, j'ai été prise dans une grande boîte internationale, le boulot que je voulais, des salaires mirobolants. Bon, au début, j'étais toute contente, etc. C'était super. Et en fait, à partir du deuxième mois, je me levais le matin, je prenais la bagnole, j'allais à Orly, je me tapais une heure et demie de bouchon, je travaillais derrière mon PC dans un bureau avec des collègues qui parlaient de machines à laver, de leur petite vie toute plan-plan. Ça me déprimait au possible. À midi, t'allais manger au réfectoire, tu sais, réfectoire d'Orly, avec tous ces gens qui avaient la même vie. Et le soir, tu rentrais, bah, tu te retapais tes bouchons. Et puis le lendemain, tu refaisais exactement la même journée. Et tu vivais en espérant. Le dimanche, tu disais, ah putain, on reprend déjà demain. T'avais que 2 jours pour profiter. À chaque fois, t'avais que tes 5 pauvres semaines de congés payés, quoi. Et là, j'ai dit, non mais, mon Dieu, moi, je veux pas ça. Et je sortais tout le temps, je faisais la fête. Enfin, vraiment, mais citadine à bloc. Hein. Les fringues, les sorties, les boîtes, un peu de sport. Et c'était tout, quoi. Et puis à cette période-là, en plus... J'ai fait de l'anorexie mentale pendant 5-6 ans. J'étais fine comme tout ce qu'on demande, en fait. Donc voilà, j'étais à fond dans la société de consommation. Enfin, ouais, c'était pas possible. Donc j'ai tapé sur Internet, recherche job extraordinaire. Et j'ai trouvé que le CNRS, Centre National de Recherche Sous-Marine de Monaco, cherchait quelqu'un qui savait naviguer pour prendre un voilier et partir en pleine mer pour aller faire des marquages de dauphins, baleines, requins. Je dis, bon, allez, je sais faire ça. J'y vais. Et je suis partie, en fait, après, pendant 4 mois, sur un petit bateau, et j'allais au nord de l'Afrique, etc. Et là, je suis passée de la petite vie vraiment coucoune à bah, une douche par semaine. Et si tu te douches, c'est dans la mer, de toute façon. Donc, t'es toujours salée, tu manges toujours la même chose. Tes fringues, bon, autant te dire que t'avais un maillot, et puis c'est tout, quoi. Donc, et en plus, j'étais logée, nourrie, blanchie, sur le bateau, mais je me faisais pas une thune. On me donnait rien du tout. Donc c'était vraiment le contraire. Et en fait, à partir de ce jour-là, bah, je suis partie. Quand je suis partie sur le bateau, j'ai pris mes valises, j'ai dit à mes parents, bah, je reviens, de toute façon. Et en fait, je suis jamais revenue. Je suis partie comme ça, 3 ans. Trois bonnes années. Et j'ai attaqué après, avec mes potes anglais, la saison aux Deux Alpes, en hiver. Et là-bas, mais ça a été révélation, quoi. Révélation, en fin d'année, bah, je connaissais très bien le vétérinaire du zoo de Vincennes et à cette époque-là, qui m'a dit, bah, écoute, j'ai trouvé un petit louveteau en Italie, on peut pas le prendre au zoo, est-ce que tu veux le prendre? Je dis, mais je vais pas prendre un loup, j'habitais dans un 28 mètres carrés avec 4 bonhommes et je dormais même avec un des bonhommes parce qu'il n'y avait pas assez de lit, quoi. Donc, tu vois, et en fait, je suis allée le chercher, il tenait dans ma boîte à gants. Non, je l'ai pris et puis après je suis restée en montagne en fait. Et puis j'ai ouvert ma petite boîte. Voilà.
Et le loup là il fait 45 kilos.
Le loup il fait 45 kilos. Il a mangé quelques personnes mais elles sont toujours vivantes. Il manque juste des morceaux. Mais maintenant il est super gentil. Alors lui ce petit poulain, tu vois.
C'est un petit poulain. Adulte, non.
Il va être aussi gros que le blanc, là, Marc, tu vois. Plus fin, mais la même taille.
Regarde, c'est lui.
Trop cool. Et en fait, ce petit poulain, je l'ai acheté à la naissance 7 000 euros. Parce qu'il a des origines de taré. Et en fait, il fait que de se blesser. Donc j'ose espérer
qu'à un moment donné, il va rentrer dans ses frais.
Il va arrêter. Et que je pourrais le monter un jour, tu vois. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai le cul sur un cheval. Ça a commencé à Ris-en-Gis, donc... Et ça, c'est une passion qui m'a toujours suivie. Et puis c'est même au-delà d'une passion, en fait, c'est vraiment moi. J'ai toujours eu besoin des bêtes. C'est quelque chose qui me rééquilibre, qui me pose, qui te remet face à toi-même. T'as pas besoin d'être mince, t'as pas besoin d'être grosse, t'as pas besoin d'être n'importe comment, en fait. C'est toi, c'est un reflet de toi. Et c'est ce que j'ai aimé en arrivant en montagne, etc. Enfin, déjà, c'est simple. Hein. Tu regardes, bon là, on est en voiture. Tu regardes, tu me dis combien de panneaux publicitaires, de fringues, de nanettes, tu vois. Enfin, il n'y a plus du tout, en fait, cette vision des choses, de consommation, d'idéal, on va dire, féminin, corporel. Et moi, dans lequel j'étais un peu... j'ai toujours été rondelette. Et ça, au début, j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Et en fait, en revenant ici, j'ai dit, putain, mais merde, quoi. Enfin, j'ai envie de manger une tartiflette. Bah, tu sais quoi, si j'ai envie d'en manger une demain, j'en remange une demain, quoi. Et quand j'ai récupéré mon cheval de Fontainebleau, en fait, je l'ai ramené en montagne. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé pour monter. Donc après, moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas, maintenant que j'ai mon cheval, m'entraîner pour le diplôme d'accompagnateur en montagne. C'est un diplôme qui est quand même assez costaud. Moi, je l'ai fait en condensé parce que bah, j'avais une vie à côté, j'ai eu un petit garçon. Et du coup, je suis partie avec lui en formation. Je bossais de 6h du matin à 23h le soir.
Il avait quel âge, lui?
Et bien lui, il avait 3 ans et demi. Et à 6h30 jusqu'à l'heure de la nourrice, à 9h, il brossait avec moi les écuries pendant la formation, quoi. Donc je l'emmenais à cheval à chez sa nourrice. Et en fait, j'ai eu le diplôme d'accompagnateur montagne. Et là, je me suis dit, bon, bah maintenant j'ai ça, faut que j'ouvre quelque chose, quoi. Je peux pas bosser pour quelqu'un, c'est pas possible. Et du coup, j'ai monté la structure et puis les chevaux sont venus petit à petit. Et ouais, putain, pour rien au monde, j'arrêterais, quoi.
Ton petit Victor, il est né quand?
Il est né le 24 avril 2012.
T'avais 24 ans.
Ouais, certainement, si tu le dis. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas fait veto. Ouais, non, mais j'ai eu quand même assez jeune. Et moi, ça a été quand même un gros coup dur, quoi. Parce que j'avais pas du tout prévu ça dans ma vie. Et tout le monde me disait, ah ouais, non, mais là... partir comme ça, droite à gauche, faire tes trucs, c'est pas possible, un enfant ça te change la vie. Oh, bonjour l'angoisse, mais ces gens-là, j'avais envie de les baffer, quoi. Mais moi, ma vie, elle est très bien. J'ai pas envie qu'elle change, quoi. J'ai pas envie que ma vie, elle change. Et et puis j'étais, du coup, avec mon loup, c'est vraiment fusionnel, parce que c'est vraiment un terme de meute, et il peut pas se passer de moi, je peux pas m'en séparer. Et déjà, la première fois que je m'en suis séparée, c'était pour aller à l'hôpital, quoi. Et à l'hôpital, mais moi, lui, il est pendant 2 jours, il en a été malade. On a dû demander à l'hôpital de faire une dérogation pour que je puisse sortir, quoi. Parce que, enfin, c'était pas possible. Moi, je pétais un plomb, c'était terrible. J'avoue que quand je suis rentrée de l'hôpital, j'avais qu'une envie, c'était laisser le bébé à ma mère et retrouver mon loup, quoi. Alors, ça peut choquer, je pense. Après, j'ai toujours eu un instinct maternel par rapport à mon fils. Hein. Voilà, il y a des choses qui me dérangeaient quand les autres, ce que les autres faisaient. Après, maintenant. Le but, moi, je ne serais jamais à dire « Oh, ça grandit trop vite !» Ah mais non, mais grandit vite, quoi. Grandit vite qu'on fasse des choses, parce que moi, coucouner, tout ça, mais ça me gonfle, en fait. Là, à 5 ans, il sait se faire chauffer ses trucs au micro-ondes, il sait aller nourrir les chevaux, il sait mettre les portions de grains, il sait regarder son père égorger un mouton quand il... Bon, moi, c'est horrible pour moi, mais il me regarde, il me fait « Mais maman, c'est la vie, arrête de te cacher, quoi !»
T'as passé des diplômes pour être agricultrice?
Non, j'ai juste acheté plus de chevaux. On m'a dit qu'il en fallait 5 pour être chef d'exploitation, donc j'en ai acheté 20. Ça, je savais que je serais super chef. Donc là, c'est la première année que Cavaloisan a ouvert. Et en fait, je suis déjà en train de voir là pour le faire prendre en gérance. On ouvre du coup une deuxième structure dans une montagne qui est juste à côté au col d'Ornon. Et en fait, là, je suis en train de trouver les personnes qui rêveraient d'avoir ça, mais qui n'ont pas pu créer quelque chose. Donc moi, je crée, je mets la cavalerie, et après, je trouverai des personnes qui me paieront pour faire ce boulot. Et après, je me casse et je monte autre chose. Voilà. Là, c'est le but, c'est de pouvoir créer des trucs, que ça marche. Si ça marche, touche du bois. Mais puis toujours faire des choses nouvelles, que ce soit dans un autre pays, que ce soit dans un autre endroit. Là, j'ai signé une promesse d'embauche pour 2009 en Afrique du Sud, 2019, pardon, en tant qu'accompagnateur aussi. Donc, on verra. Bah, je suis accompagnateur à cheval dans les réserves africaines. Après, c'est assez dangereux. Donc là, par contre, par rapport à mon fils, je me pose des questions parce que bah, y a quand même pas mal d'accidents, que ce soit avec les éléphants, les buffles, les rhinos. Donc bon, mais en même temps, c'est bon cette appréhension. En même temps, c'est bon et c'est sur 3 mois. Donc ça veut dire que je laisserai la structure en gérance 3 mois, 3-4 mois. Après, je reviens tranquille. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment pouvoir me faire plaisir. Je veux plus de contraintes, en fait, dans ma vie, du tout. Et les contraintes, sauf celles que je m'impose. D'ailleurs, Nico, il était pas content. Quand je lui dis pour la 2019, ah, j'ai une promesse d'embauche. Et il me dit, ah ouais, tu vas faire quoi? J'ai signé, bien sûr. Ah ouais, et nous? Et Victor et moi? Victor, je l'emmène, je trouverai bien là-bas, les moyens de garde, en Afrique du Sud. Ça va, ils mangent pas les gosses. Hein. Il y a certainement des garderies, des machins, des écoles. Je dis, ah bah, ça serait trop cool, quoi. Mais et puis il me dit, et tu me demandes pas mon avis? Bah en fait, non. Faut que je réponds.
Je réponds.
Allô?
Oui, c'est moi, ça va?
Oui, je suis en voiture avec Mathieu.
Ah d'accord, bah, c'est écrit sur ma façon, c'est avec un journaliste.
Tu m'as vu mon article de presse?
Ça y est.
Trop cool! At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. C'était la photo de classe, reportage Mathieu Palin, réalisé par Marie Placé avec un coup de main de Yaël Mandelbeau. Merci à Alexandre Paturel, à Audrey Jeanvrin, à Julie Couchard et à Sybille Képé-Clian. C'est une émission qui a été diffusée la première fois le 15 mars 2017. L'attachée de production, c'était Sandrine Chaperon. Il y a aussi pas loin Jeanne Delecroix et Zoé Marie Roulier. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive.